La crise religieuse de Mademoiselle avait duré 6 grands mois, au bout desquels la poudre et les mouches reparurent et la princesse se réconcilia avec le monde. « Je recommençais, dit-elle, à prendre goût pour les divertissements, de sorte que j'étais avec plaisir aux promenades, aux divertissements et aux comédies. Cela ne servit qu'à modérer l'excès de l'austérité où je m'étais réduite. Il resta toujours dans mon cœur les sentiments de la dévotion qui m'avait pensé conduire jusqu'aux Carmélites. D'autres idées avaient fait diversion. La politique s'emparait d'elle. C'était le domaine d'élection des femmes de cet âge romantique. Elles y ont été toutes puissantes, comme il est douteux qu'elles ne redeviennent jamais sous le code le plus féministe, car les droits inscrits dans les lois ne sont rien auprès des privilèges conférés par les mœurs. Elles ont décidé de la guerre et de la paix. Fait la loi à nos ministres et signé des traités avec nos rois, sans autre titre sinon qu'elles étaient belles et spirituelles. Richelieu avait dû compter avec elles. Mazarin les redoutait. « Nous en avons 3 », écrivait-il à Don Luis de Haro, « qui seraient capables de gouverner ou de bouleverser 3 grands royaumes, la duchesse de Longueville, la princesse Palatine et la duchesse de Chevreuse. » Cette dernière était le vétéran du trio étant née avec le siècle. « Elle avait l'esprit fort, » dit Richelieu. Une beauté puissante dont elle savait bien user, ne s'amollissant par aucune disgrâce, et demeurant toujours en une même assiette d'esprit. Res a complété le portrait. Elle aimait sans choix, et purement parce qu'il fallait qu'elle aimât quelqu'un. Il n'était même pas difficile de lui donner de partie faite un amant. Mais dès qu'elle l'avait pris, elle l'aimait uniquement et fidèlement. Son esprit joignait la vivacité à la force. Elle avait des idées si brillantes qu'elles paraissaient comme des éclairs et si sages qu'elles n'eussent pas été désavouées par les plus grands hommes de tous les siècles. Un si rare génie, tourné vers l'intrigue dès la tendre jeunesse, avait rendu celle qui le possédait l'une des plus dangereuses personnes du royaume. Madame de Chevreuse, amie intime d'Anne d'Autriche, avait été pour son coup d'essai la cheville ouvrière de la conspiration Chalais. Il lui en revint la gloire d'être à 25 ans une exilée politique et de s'en venger comme l'aurait pu faire un vieil homme d'État. Elle forma par sa seule industrie une ligue contre la France et parut aux alliés une si grande figure que l'Angleterre, battue et cherchant la paix, mettait parmi ses conditions le rappel d'une femme à qui son roi portait une particulière affection. Richelieu céda et se souvint de ne plus exiler Madame de Chevreuse. Lors de l'intrigue espagnole qui aboutit à l'affaire du Val-de-Grâce, il tâcha de la garder de peur d'une nouvelle ligue. Elle lui coula entre les doigts. Cela se passait en 1637. La duchesse de Chevreuse s'enfuit à travers toute la France, à cheval et déguisée en homme. Elle ne s'était jamais tant amusée, et ce n'était pourtant pas ce qui lui avait manqué dans la vie. Son mari et Richelieu faisaient courir après elle pour la supplier de ne pas s'en aller. Il fallait se cacher, ruser, et les aventures foisonnaient. Une dame, qui l'avait logé en passant, s'éprit de ce beau garçon et lui fit une déclaration. Ses guides l'initiaient à la tenue et aux propos des hommes, quand il se croit entre hommes et dispensé de se gêner. Elle couchait un jour sur le foin, le lendemain dans l'un de ces vastes lits de nos pères où il était d'usage de mettre plusieurs personnes, qu'elles se connussent ou non. Elle gagna ainsi les Pyrénées, Madrid, où elle tourna la tête au roi d'Espagne, Londres, où on la fêta et devint le chef officiel des ennemis de Richelieu. Louis XIII expirant, lui fit l'excès d'honneur d'interdire solennellement sa rentrée en France. Elle accourut d'autant plus vite à Paris, persuadée qu'elle allait régner sous le nom d'Anne d'Autriche. Le 14 juin 1643, Madame de Chevreuse renvoyait la reine après 10 ans de séparation et trouvait la place prise par Mazarin. Il y avait un mois, jour pour jour, que le roi était mort. Elle se mit aussitôt en devoir de déloger le cardinal, mais cela n'était point si facile. La princesse palatine avait son mariage. Anne de Gonzague était belle à ravir et douée aussi du génie des grandes affaires. « Je ne crois pas, » dit Rès, « que la reine Élisabeth d'Angleterre ait eu plus de capacité pour conduire un État. Cependant, elle ne débuta point par la politique. Il lui semblait avoir un meilleur emploi à faire de sa jeunesse. Elle la donna au plaisir et réussit à étonner la cour de France, qui en avait tant vu par le nombre et le piquant de ses aventures. C'était encore une de ces belles dames qui couraient les grandes routes déguisées en cavalier ou en moine, et que personne ne s'étonnait de rencontrer n'importe où, dans une situation singulière pour une princesse. Il n'y avait pas de borne à leur fantaisie. Anne de Gonzague se donna pendant 5 ans pour Madame de Guise, femme d'Henri de Guise, archevêque de Reims, le même qui épousa ensuite Madame de Bossu. Un beau jour, elle reprit son nom de fille. « Comme si de rien n'était », rapporte la grande mademoiselle. Revint tranquillement à la cour et eut le talent de se faire épouser entre deux galanteries par le prince palatin le plus jaloux des hommes.
« Tout céder, » dit Bossuet, « au charme secret de ses entretiens. »
Vers la trentaine, elle obéit à son génie en prenant rang parmi les femmes politiques, avec Madame de Longueville, qui n'avait pour tout génie que ses cheveux blonds et ses yeux charmants, et n'en faisait pas moins marcher les hommes. Avec l'altière Montbazon, éclatante et superbe, mais trop vicieuse et trop utilitaire dans le vice, même pour son temps. Avec la duchesse de Châtillon, beauté impérieuse, qui se fit peindre la main sur un lion à face humaine, et ce lion à la ressemblance du grand Condé, avec tant d'autres qui se jouèrent pendant la fronde dans la mesure de leur force, de l'honneur et de la vie des hommes, de la souffrance universelle, de l'existence de la patrie, avec la grande mademoiselle enfin éveillée aux idées sérieuses par le danger qui menaçait sa maison. La fille de Gaston d'Orléans avait grandi dans la pensée que la branche cadette de la maison de France, la sienne, pouvait arriver à tout. C'était, depuis plus d'un siècle, la leçon de l'histoire. De Charles VIII à Louis XIII, la couronne ne s'était transmise que 2 fois du père au fils. Dans tous les autres cas, elle était passée aux frères ou à des cousins. Les collatéraux de la famille royale avaient pris l'habitude de se sentir très près du trône, d'où une importance et des attitudes qui ont été souvent funestes au repos du pays. Gaston d'Orléans avait touché la couronne du bout du doigt avant la naissance de Louis XIV et il ne s'était servi de son titre d'héritier présomptif qu'à des fins malfaisantes. Depuis qu'il avait des neveux, il vivait dans l'attente de ce que ferait pour lui l'étoile des branches cadettes, et reprenait espoir à la moindre alerte. Louis XIV eut la petite vérole à 9 ans et fut en danger de mort. Son oncle manifesta publiquement sa joie.
On but à la santé de Gaston Ier, l'on avait déjà partagé les charges.
On avait aussi disposé du frère du roi.
La reine fut avertie que l'on faisait dessein d'enlever le petit monsieur.
La nuit d'un samedi ou dimanche, que le roi était très mal,
et pour l'empêcher, le maréchal de Schomberg fut toute la nuit à cheval, avec la compagnie des gendarmes, et de tout ce monsieur fit des excuses. La cour avait encore à se défendre sous la régence d'Anne d'Autriche, contre une seconde branche cadette, qui suppléait à l'infériorité du rang par l'intelligence et l'audace. Les prétentions des Gondés avaient été l'un des premiers soucis de Mazarin ministre. Elles étaient vastes et soutenues avec habileté par Monsieur le Prince, homme supérieur, quoiqu'il ne payât pas de mine. Les gens de son âge l'avaient connu beau. La débauche, l'avarice et l'abandon de soi en avaient fait un petit vieux sale et vilain, tout voûté, tout ridé, avec de gros yeux rouges, de longs cheveux gras, passés derrière l'oreille, une barbe inculte et des vêtements sordides. Richelieu avait été obligé de lui faire dire de se nettoyer et de changer de souliers quand il venait chez le roi. Son âme était crasseuse comme sa personne. Monsieur le prince avait l'humeur hargneuse et grossière. Et il appartenait à la famille des rapaces. Ayant débuté avec 10 000 livres de rente, il en eut 1 000 000 avant de mourir sans les charges et les gouvernements. On tenait sa poche en l'approchant, et cela ne servait à rien. Tout entrait dans sa bourse et rien n'en ressortait. Mais quand son cher argent n'était pas en cause, Monsieur le Prince devenait un autre homme. Alors il
aimait la justice et suivait la raison.
Il défendait l'État contre les brouillons et l'argent de l'État contre tout le monde. Il se rendait précieux dans les conseils, par son équité, la sûreté de son jugement, sa connaissance parfaite des institutions du royaume, du chaos de nos lois, de la situation des partis, des tenants et aboutissants d'un chacun. À défaut d'affection, il inspirait une crainte bienfaisante qui forçait le respect. Considérable par lui-même, Monsieur le Prince l'était encore par 2 de ses enfants, le duc d'Enghien et Madame de Longueville. Il lui semblait donc que les Condés, tout compte fait, valaient bien les d'Orléans et qu'il pouvait prétendre à être avec eux sur un pied d'égalité. Vis-à-vis de la sacro-sainte étiquette. On verrait ensuite où cela mènerait. Une lutte s'établit entre les deux familles pour des détails symboliques tels que l'alignement d'un tapis ou le portage d'une queue de robe qui ne nous paraissent des bagatelles que parce que la tradition monarchique s'est perdue chez nous. Monsieur le Prince et Gaston avaient de perpétuelles picoteries au conseil du roi. Devant une galerie attentive à marquer les coups. Les vraies batailles avaient lieu aux cérémonies officielles, entre Madame la Princesse, hardie à empiéter, et la grande mademoiselle, résolue à défendre ses prérogatives de petite fille de France. Tous les deux y apportaient la même ardeur. Elles ont été héroïques et burlesques. Le 5 décembre 1644, elles avaient été désignées pour assister ensemble à un service solennel à Notre-Dame, d'après l'ordre des préséances. Mademoiselle devait y avoir le pas sur Madame la Princesse. Cette dernière se fit saigner pour avoir un prétexte de ne pas aller défiler derrière Mademoiselle. Apprenant cela, Mademoiselle prit un lavement pour se mettre dans l'impossibilité d'aller défiler sans avoir Madame la Princesse derrière elle. Saint-Simon les aurait admirées. C'était ainsi qu'il comprenait le dévouement aux privilèges du rang. Mais les choses n'en restèrent pas là. Anne d'Autriche, soufflée par Mazarin, se fâcha contre sa nièce. Monsieur, poussé par la reine, menaça Mademoiselle de la faire porter de force. À Notre-Dame, il fallut céder et partir. L'aigreur réciproque éclatait pour des futilités, comme l'affaire des lettres tombées, août 1643, qui eut son contre-coup sur la Fronde. de l'avis unanime des contemporains et qui fait honte tant elle est sotte. Madame de Montbazon avait ramassé des lettres d'amour, échappées de quelques poches. Sa charité publia, qu'on avait reconnu, l'écriture de Madame de Longueville. C'était faux. Anne d'Autriche condamna Madame de Montbazon à aller présenter des excuses à l'hôtel de Condé, rempli pour la circonstance des amis de la famille.
« Monsieur y était, » rapporte la grande mademoiselle. « Et je ne pus à mon égard me défendre d'y aller. » Bien qu'alors je n'eusse pas d'amitié pour Madame la Princesse, ni pour pas un de sa famille, néanmoins je ne pouvais, avec bienséance, dans cette occasion, prendre un parti contraire au sien. Et c'était là un des devoirs de parenté de l'on ne peut se défendre.
Le cœur n'y était pas, les Gondés n'y furent pas trompés. Et cette misérable histoire jeta de l'huile sur un feu que Mazarin ne cessait, d'autre part, d'attiser, trouvant son intérêt, et aussi celui de la couronne, à ce que les deux branches cadettes fussent mal ensemble.
« Se voyant pressé de toutes parts, »
disent les mémoires d'un anonyme,
« le cardinal crut que pour maintenir sa fortune, il fallait de nécessité diviser les maisons d'Orléans et de Bourbon, afin que, se balançant l'une par l'autre, il pût demeurer ferme au milieu et se rendre nécessaire à toutes deux. »
L'affaire des lettres tombées lui avait paru un coup du ciel. Il en tira si bon parti que, depuis ce temps fatal, le Luxembourg et l'hôtel de Condé ne gardèrent presque plus de mesure. On regarda toujours le duc d'Orléans et le duc d'Enghien comme deux chefs de partis contraires auxquels chacun se ralliait selon ses intérêts et son inclination. Mazarin ne pouvait pas se laisser renverser. Son étoile était trop belle. Il aurait fallu être aveugle pour ne pas voir que le Premier ministre avait à sa disposition, quand il venait de conférer avec sa souveraine, des arguments d'un autre genre et d'infiniment plus de poids auprès d'une femme, particulièrement d'une femme vieillissante, que la raison politique ou la raison tout court. Anne d'Autriche n'était pas veuve depuis 4 mois qu'Olivier d'Ormesson notait dans son journal que le cardinal
était reconnu pour le tout-puissant.
La reine commettait pour lui des imprudences, de petites pensionnaires amoureuses. Elle s'était mise à le recevoir le soir, portes ouvertes, sous prétexte de s'instruire des affaires. La conférence devint tous les jours plus longue, et un beau soir, les portes se fermèrent, au grand scandale de toute la cour, et ne se rouvrirent plus. À Reuil, elle voulut le faire monter auprès d'elle, dans sa petite voiture de jardin. Mazarin eut la sagesse de refuser et l'étourderie de raccompagner le chapeau sur la tête, dont tout le monde était étonné. Septembre 1644. Quelques semaines plus tard, tout Paris savait à qui étaient destinés certains appartements en réparation au Palais Royal, avec passage secret pour aller commodément chez la reine. Afin que personne n'en ignorât, la Gazette du 19 novembre avait publié le communiqué suivant.
La reine a remontré en plein conseil qu'attendu l'indisposition du cardinal Mazarin et qu'il lui fallait tous les jours passer avec grande peine tout au travers de ce grand jardin du palais royal. Et voyant qu'à toute heure, il se présentait de nouvelles affaires pour lui communiquer, elle trouvait à propos de lui donner un appartement dans le palais royal afin de conférer plus commodément avec lui de ses affaires. L'intention de Sa Majesté a été approuvée par Monsieur les ministres et avec applaudissement, de sorte que lundi prochain, 21 novembre, son éminence doit en prendre possession.
l'indiscrétion d'Anne d'Autriche finissait par gagner le favori. Il se permit deux fois à Rueil et à Fontainebleau de déloger la grande mademoiselle pour se rapprocher de la reine. La première fois, mademoiselle dévora l'affront et fut chercher un gîte dans le village. La seconde, la patience lui échappa.
« Le bruit de Paris ?»
écrivait d'Ormesson.
« Et que mademoiselle a parlé hardiment à la reine sur ce que le cardinal voulait prendre, son appartement, pour en être plus proche. »
Septembre 1645. Plusieurs historiens croient à un mariage secret entre la régente et son ministre. Il n'en existe aucune preuve, à moins d'accepter pour telle une lettre ambiguë du cardinal à la reine sur les gens qui cherchent à lui faire du mal dans son esprit.
« Il n'y gagnerait rien, » dit Mazarin, « parce qu'enfin,
le cœur de la reine et celui de Mazarin
sont unis ensemble par des liens que vous-même êtes tombés d'accord plus d'une fois avec moi, qu'ils ne pouvaient être rompus ni par le temps ni par quelque effort qu'on y fit. »
Quelques lignes plus bas, il réclame sa pitié. Mazarin était alors en exil. Pour cet enfant, c'est-à-dire lui-même,
il le faut compatir, car c'est une étrange chose pour cet enfant de se voir marié et séparé en même temps et qu'on poursuit toujours pour apporter des obstacles à son mariage.
27 octobre 1651. Ce texte, déjà si obscur, peut être pris dans un sens figuré. Il a donc besoin d'être appuyé de preuves morales, tirées des façons d'être de la reine avec Mazarin et des changements que l'âge ou les circonstances apportèrent à leur relation. Nous noterons ces fluctuations en temps et lieu. Pour l'instant, nous en sommes à la lune de miel. Légitime ou non, on en place le début à la fin du mois d'août 1643, ou dans les 6 semaines qui suivirent. Le public observait avec irritation le roman royal. Après avoir accueilli d'assez bonne grâce le ministère Mazarin, la population s'unissait dans un sentiment de mépris et de haine pour le bel Italien qui savait arriver par les femmes. Les amis de la reine redoublaient leurs avertissements et n'y gagnaient que d'être disgraciés. L'un de ses plus anciens serviteurs, La Porte, qui avait fait ses preuves de dévouement, osa lui dire en face
« Que tout le monde parlait d'elle et de son éminence, d'une manière qui la devait faire songer à elle. Elle me demanda qui m'avait dit cela, je lui dis tout le monde, et que tout cela était si commun qu'on ne parlait d'autre chose. »
Elle devint rouge et se mit en colère. Madame de Brienne, femme du secrétaire d'État, ayant eu la même hardiesse, raconta au sien
« Que plus d'une fois, Sa Majesté rougit jusque dans le blanc des yeux. »
Anne d'Autriche trouvait des lettres anonymes dans son lit. Elle entendait fredonner par les rues de Paris des chansons qu'il ne tenait qu'à elle de comprendre. Enfin, un jour, qu'elle écoutait un service à Notre-Dame, elle eut la surprise d'être entourée par une bande de femmes du peuple qui se jetèrent à ses pieds en lui criant
« Qu'elle dissipait le bien de son pupille, qu'elle avait un homme chez elle qui prenait tout. »
C'était en effet le grand grief, beaucoup plus sensible, il faut l'avouer, que le regret de rabaissement de la reine. Mazarin était le plus éhonté voleur qui ait jamais dévoré un pays à la faveur du pouvoir. Donnant, donnant, avec lui et sans se cacher. On était prévenu. On n'avait qu'à ne rien demander, si l'on ne voulait pas y mettre le prix. Au besoin, il relançait les gens. Bussy Rabutin fut averti par un billet du grand Condé d'avoir à verser,
et sans délai, 7 500 livres,
pour le pot de vin d'une petite charge. On possède le billet de Condé, qui a soin de déclarer qu'il
a eu commandement de mander ceci.
Mongla raconte qu'Anne d'Autriche sollicitait un jour une grosse charge pour l'une de ses créatures. Son protégé fut tarifé à 100 000 écus. La reine mère piquée marchanda. Elle ne put obtenir de rabais. Il est vrai que la lime de miel était alors bien loin. Les coffres de l'État étaient mis en coupe réglée. Les millions s'entassaient dans ceux du favori, cependant que nos soldats mouraient de faim à la frontière, que les créanciers de l'État n'étaient point payés, que la cour de France commençait à paraître dans une nécessité honteuse, et qu'il fallait la force armée pour arracher les impôts aux campagnes, ruinées par le passage des troupes, les pillages, voleries, abus et désordres de toutes sortes. Cependant, le pauvre monsieur le cardinal, ainsi que l'appelait la reine en parlant de lui, donnait des fêtes d'un luxe insolent et dépensait millions sur millions en fantaisie. J'ai déjà dit que ses importants services en politique étrangère, qui l'ont montré grand ministre par plusieurs côtés, paraissaient inaperçus en France. Peut-être à cause de l'absence de journaux. D'indifférent, Mazarin devint vite impopulaire. Dans les commencements de sa faveur, Anne d'Autriche avait pu acheter le silence des courtisans. Nous l'avons montré semant l'argent et les faveurs, à pleine main.
« La reine donne tout !»
était passé en dicton. Le courtisan ravi sollicitait les dons les plus extravagants. Il les obtenait.
On accorda des privilèges, des monopoles à exploiter ou à vendre. Chacun imaginait les taxes les plus incroyables, les plus bizarres, pour s'en faire attribuer le profit. Une dame de la cour obtint de la régente un droit d'impôt sur toutes les messes qui se célébraient à Paris.
Le 13 janvier 1644, le conseil du roi employa une partie de sa séance a refusé quantité de dons accordés par la reine.
Tous ridicules et qui seraient à faire rire.
La manne royale tarissait. Quand elle fut à sec et le trésor vide, on cessa de se gêner. Il s'éleva contre le favori un long murmure, bientôt changé en clameur, et qu'Anne d'Autriche ne parvenait pas à faire taire. Ses efforts ne servaient plus qu'à lui aliéner l'opinion, sans profit pour Mazarin.
« L'amour qu'on avait eu jusqu'alors pour la reine,
dit Madame de Motteville,
commença peu à peu à diminuer parmi les peuples. Cette puissance si absolue qu'elle donna au cardinal Mazarin fit qu'elle perdit la sienne et, pour trop désirer qu'il fût aimé, elle fut cause qu'il fut haï. »
D'impopulaire, Mazarin devint exécré et le mépris l'emporta encore sur la haine, pour des raisons assez bonnes, mais que la noblesse française aurait mieux fait de voir avant la fin de la pluie d'or. Elles ne sont nulle part aussi bien expliquées que dans un dialogue des morts composé par Fénelon pour son élève, le duc de Bourgogne. Richelieu et Mazarin sont les personnages du dialogue. Chacun fait valoir son œuvre politique et critique celle de l'autre. Mazarin en vient à reprocher à Richelieu d'avoir été cruel et sanguinaire.
« Vous avez bien fait pis aux Français !»
lui repart Richelieu.
« Que de répandre leur sang ! Vous avez corrompu le fond de leurs mœurs ! Vous avez rendu la probité ridicule. Je n'avais que réprimé l'insolence des grands. Vous avez abattu leur courage, dégradé la noblesse, confondu toutes les conditions, rendu toutes les grâces vénales. Vous craignez le mérite. On ne s'insinuait auprès de vous qu'en vous montrant un caractère d'esprit bas, souple et capable de mauvaises intrigues. Vous n'avez même jamais eu la vraie connaissance des hommes. Vous ne pouvez rien croire que le mal, et tout le reste n'était pour vous qu'une belle fable. Il ne vous fallait que des esprits fourbes,
qui trompassent ceux avec qui vous aviez besoin de négocier, ou des trafiquants qui vous fissent argent de tout. Aussi, votre nom demeure avili et odieux. »
Le portrait est ressemblant, bien qu'il ne montre que l'une des faces du modèle, et la plus vilaine. Il est curieux qu'il ait été composé pour l'arrière-petit-fils d'Anne d'Autriche. La grande mademoiselle comptait parmi les plus hostiles à Mazarin. Elle se montre très dure pour lui dans ses mémoires. Mais la singularité de ses jugements sur le cardinal, pour ne pas dire leur ridicule, en affaiblit considérablement l'intérêt. Mazarin péchait, à son avis, par le manque d'intelligence. Il n'avait ni capacité ni jugement. Sa conduite envers les princes du sang le prouvait de reste. Un ministre qui marchandait la puissance aux branches cadettes, pilier du trône, selon mademoiselle, et qui les écartait au lieu de s'appuyer dessus, était manifestement
le plus malhabile homme du monde,
en même temps que le plus indigne. On ne se privait pas impunément. Mademoiselle écrivait ces choses, sans rire. Des talents militaires d'un Gaston d'Orléans, et l'on dut éviter bien des malheurs, en gouvernant le royaume d'après ses conseils. Le devoir des bons serviteurs de la couronne était d'unir leurs forces pour chasser le cardinal, et ce devoir souriait de toutes les façons à mademoiselle. Il était du bel air d'appartenir à l'opposition. Les personnes de qualité pouvaient difficilement s'en dispenser, à moins de liaisons particulières avec Mazarin. Et les femmes, pas plus que les hommes, depuis qu'elles s'étaient mises à s'occuper des affaires publiques, avec l'ardeur que leur sexe apporte à tout ce qui l'entreprend. La politique était devenue le passe-temps favori des ruelles, à Paris et dans les châteaux. On commençait toute petite à avoir une opinion sur le gouvernement.
« Or ça, ma grande maman, »
disait la petite Montausier à Madame de Rambouillet,
« parlons d'affaires d'État, à cette heure que j'ai 5 ans. »
La grand-maman aurait eu mauvaise grâce à refuser, car sa chambre bleue était quelque peu responsable du nouveau divertissement. Avec les premiers salons parisiens était née une opposition à leur ressemblance, spirituelle et moqueuse, très taquine, qui ne fait de mal qu'à ceux qui s'en préoccupent, mais devient alors extrêmement dangereuse. L'esprit y joue le rôle principal. On renverse un ministère avec un bon mot, on ferait une révolution plutôt que de sacrifier un trait d'esprit. C'était fait pour les Françaises, grandes artistes en conversation. L'opposition des salons leur apportait des plaisirs de choix, toutes sortes de sensations amusantes et raffinées, et leur ouvrait, par surcroît, une large porte sur un champ d'influence où les femmes n'avaient pénétré jusqu'alors qu'exceptionnellement. Elles se précipitèrent dans la place et y sont encore, faisant et défaisant les gouvernements, ou du moins y tâchant, par conviction, sans aucun doute, mais aussi pour l'amour de l'art. La grande mademoiselle suivit la mode. Elle fréquenta les gens mal en cour, dit beaucoup de mal du premier ministre et se fit traiter de brouillonne, sans savoir précisément où elle voulait en venir. Ce Mazarin, qu'elle prenait pour un pauvre d'esprit, avait emmêlé avec tant d'art les fils de toutes les prétentions et de toutes les cabales, que les plus fins s'y perdaient et ne reconnaissaient plus ni leurs propres intérêts ni leurs vrais amis. Monsieur, par exemple, qui avait de l'esprit à revendre, n'aurait pas pu expliquer pourquoi il donnait tort à sa fille, et l'abandonnait, lui si jaloux de ses prérogatives et si mal, avec monsieur le prince. Toutes les fois que mademoiselle s'embarquait à défendre leur maison contre les usurpations des Gondés. C'était le secret de Mazarin, ce n'était pas celui de monsieur. après en avoir versé des larmes amères, dans la pensée que son père ne l'aimait plus et lui voulait du mal. Mademoiselle prit son parti de ne compter que sur elle-même, pour tout ce qu'elle avait à faire dans la vie. Elle avait une vingtaine d'années et était dans son plein épanouissement de belle fille, saine et fraîche. Son extérieur est dépeint avec une certaine complaisance dans un portrait écrit par elle-même.
« Je suis grande, » dit-elle, « ni grasse ni maigre, d'une taille fort belle et fort aisée. J'ai bonne mine, la gorge assez bien faite, les mains et les bras pas beaux, mais la peau belle, ainsi que la gorge. J'ai la jambe droite et le pied bien fait. Mes cheveux sont blonds et d'un beau cendré. Mon visage est long, le tour en est beau. Le nez grand et aquilin, la bouche ni grande ni petite, mais façonnée et d'une manière fort agréable. Les lèvres vermeilles, les dents point belles, mais pas horribles aussi. Mes yeux sont bleus. Ni grand ni petit, mais brillant, doux et fier, comme ma mine. J'ai l'air haut, sans l'avoir glorieux. Je suis civile et familière, mais d'une manière à m'attirer plutôt le respect qu'à m'en faire manquer. J'ai une fort grande négligence pour mon habillement, mais cela ne va pas jusqu'à la malpropreté. Je la hais fort. Je suis propre et négligée ou ajustée. Tout ce que je mets est de bonne air. Ce n'est pas que je sois incomparablement mieux ajusté, mais la négligence me sied moins mal qu'à une autre, car sans me flatter, je dépare moins ce que je mets que ce que je mets ne me pare. Dieu m'a donné une santé et une force non pareilles. Rien ne m'abat, rien ne me fatigue. Et il est difficile de connaître les événements de ma fortune et les déplaisirs que j'ai par mon visage, car il est rarement altéré. J'ai oublié de dire que j'ai un teint de santé qui répond à ce que je viens de dire. Il n'est pas délicat, mais il est blanc et vif. »
Le caractère de la grande mademoiselle, à son entrée sur la scène politique, avait les leçons de l'expérience et de la mauvaise fortune et représenté avec vivacité dans un autre portrait par un anonyme. « Cette princesse du sang, des rois et des princes, dit l'auteur inconnu, est hautaine, hardie et d'un courage plus mâle que n'est d'ordinaire celui d'une femme. On peut dire avec vérité qu'elle est une amazone et qu'elle est plus capable de manier les armes que le fuseau. Elle est fière, entreprenante, est libre à parler et ne peut rien souffrir de tout ce qui lui semble contraire à sa pensée. Elle n'a jamais aimé les ministres du roi ni de son père, parce qu'il fallait qu'elle eût quelque déférence pour eux. Son humeur est impatiente, son esprit actif et son cœur ardent en tout ce qu'elle entreprend. Elle ne sait ce que c'est que la dissimulation et dit ses sentiments sans se soucier de quoi que ce soit. » D'autres contemporains ont dit son air brusque et délibéré, sa vivacité trop extrême et son inquiétude naturelle. D'autres ont chanté en vers la version de la Pallas de notre âge, pour Vénus, sûre de lui être agréable car elle était la première à dire
« Je n'ai point l'âme tendre »
et il lui plaisait qu'on le sût. On a blâmé sa rudesse et ses emportements, raillé ses prétentions, à savoir la guerre et son affectation à en discourir. On lui a trouvé beaucoup de grands défauts et peu des qualités qui rendent une femme aimable. On ne lui a jamais reproché une petitesse, une bassesse, une lâcheté, une action fausse ou déloyale. La grande mademoiselle n'a jamais trahi, jamais menti. Elle a toujours été vaillante et généreuse. Ce n'est pas sa faute si la nature, en la faisant fille, lui avait donné une mine et des inclinations un peu trop
mâles.